Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Nuit et brouillard, un film pour l'histoire. En 1955, 10 ans seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que la mémoire de la déportation est encore confuse et l'ampleur de l'extermination des Juifs inavouée, le cinéaste Alain René réalise le tout premier documentaire sur la tragédie. Sans jamais tomber dans l'exhibition de l'horreur, ce court-métrage de 32 minutes ambitionne d'incarner une mémoire de l'événement. Étonnant corps à corps entre l'art, l'histoire et l'archive, Nuit et brouillard, c'est son titre, est une œuvre au parcours complexe et au destin singulier. Ce film, en tout cas, reste aujourd'hui un outil indispensable pour témoigner de la folie nazie et ne jamais oublier. Notre invitée aujourd'hui, Sylvie Lindeberg, historienne et maître de conférences à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne et membre de l'Institut Universitaire de France. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages de référence sur le cinéma et le rôle de l'image lors de la Seconde Guerre mondiale, dont Nuit et brouillard, le film dans l'histoire, paru en 2007 aux éditions Odile Jacob. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Les prisonniers reviennent chaque jour par milliers. Pour eux, le cauchemar est fini. Aujourd'hui, des visages de femmes remplacent l'horizon des barbelés. Les déportés reviennent, eux aussi. Ces Français, parce qu'ils ont été les premiers résistants, parce qu'ils ont dit non à l'occupant, parce qu'ils ont maintenu la France, ont été jetés dans des camps qui étaient des bagnes, dans des bagnes qui étaient déjà des cimetières. Les femmes aussi ont souffert ce martyre. 300 survivantes du camp de Ravensbrück sont rentrées. Rien ne peut racheter ni compenser les souffrances de ces hommes et de ces femmes. Mais nous avons un devoir envers eux et envers ceux qui ne reviendront jamais, ne rien oublier.
Avril 1945. Devant les grilles de la gare de l'Est à Paris, plusieurs milliers de personnes se pressent pour assister à l'arrivée des premiers trains venus d'Allemagne. Sur les images filmées par ce qu'on appelait les actualités cinématographiques, on aperçoit les déportés descendre un à un des wagons. La caméra enregistre ensuite et en gros plan les visages fatigués, les corps amaigris et ceux qui portent encore bandages et béquilles. Sur d'autres plans, la joie, très rare, des retrouvailles de certains, se mêle à la détresse de l'attente, ce qui est le cas pour la plupart des gens qui sont ici. Sur les 140 000 déportés français, juifs, résistants, prisonniers politiques ou de droit commun, seule une poignée, à peine 4 500, vont revenir de ce voyage au bout de la nuit. Après ces premières images, suivent les premiers témoignages, les premiers récits. Dans la presse, le poids des mots balaie celui des rumeurs, et le face-à-face avec la réalité des camps est brutal. Prise de vertige, l'opinion découvre l'indicible, un monde où la mort et la terreur n'ont cessé de nourrir le quotidien. Pas même une représentation de l'enfer, encore moins une métaphore, non, la réalité de l'enfer. Un endroit, écrira l'écrivain italien et ancien déporté Primo Levi, où toute trace de civilisation disparaissait. Comme en témoigne également cet ancien déporté.
La théorie allemande était d'abaisser l'homme, de l'abaisser le plus qu'elle pouvait, de ramener l'homme à l'état de la bête, d'enlever à l'homme toutes ses idées, même ses convictions religieuses. L'allemand voulait absolument abaisser l'homme. Pour y réussir, il faisait déjà une chose, il mélangeait toutes les classes, toutes les catégories d'individus, toutes les nationalités. Les hommes ne se comprenaient pas, mais pour eux, les commandements étaient toujours donnés en allemand quand même.
Au fil des semaines, à mesure que l'ensemble des camps sur le front de l'Est sont libérés par les soldats américains, anglais ou soviétiques, les reportages tournés par les correspondants de guerre français et alliés se multiplient. Dans les salles de cinéma, les spectateurs découvrent les noms et les paysages d'une partie de ces lieux abominables. Mauthausen, Buchenwald, Birkenwald en allemand, Bergen-Belsen, Ravensbrück. À chaque fois, la caméra s'attarde sur les charniers, sur les corps de rescapés famélites portés à bout de bras par des soldats ou sur des groupes d'enfants habillés en tenue de bagnard, enfermés derrière des grillages. À chaque fois, la voix du commentateur se fait grave au moment d'annoncer qu'ici, on estime qu'au moins plusieurs dizaines de milliers de personnes sont mortes et que là, plusieurs dizaines de milliers d'autres ont disparu. Autant d'images et de chiffres qui doivent convaincre l'opinion de la barbarie et des crimes du régime nazi. Sur le plan historiographique, en revanche, tout reste à faire. Malgré des bibliothèques entières remplies de pellicules sur l'ouverture des camps, les informations sur la nature et la localisation des archives de la guerre restent lacunaires. Les mémoires de l'événement demeurent dispersées et, selon les pays, les visions ou les motivations à raconter diffèrent. Dans le contexte de l'après-guerre, reconstruire et rassembler importe plus en fait que comprendre et expliquer ce qui s'est passé. La situation est telle qu'au début des années 50, les publications sur la déportation et le système concentrationnaire sont le plus souvent à l'initiative des associations d'anciens déportés ou de réseaux d'anciens résistants. Et leur diffusion en France ne dépasse pas le cercle des intéressés. C'est donc dans un contexte sensible autour de la sauvegarde de la mémoire que l'historienne Olga Worsmer se lance dans une enquête à travers toute l'Europe. Le résultat de ce travail titanesque s'intitule « Tragédie de la déportation ». Il sort en librairie en 1954. Ce livre intègre des témoignages et propose une explication, avec les connaissances de l'époque, sur les mécanismes et l'organisation du phénomène concentrationnaire nazi et sur sa machine d'extermination. L'ouvrage est suivi quelques mois plus tard, au début de l'année 55, d'une grande exposition organisée au musée pédagogique de la rue d'Ulm. Intitulée « Résistance, libération, déportation », elle réunit objets de déportés, photographies des camps et schémas. Le jour de son inauguration, les deux commissaires de l'expo, Olga Wormser et Henri Michel, tous deux membres du comité d'histoire pour la Deuxième Guerre mondiale, annoncent sur les ondes de la radiodiffusion française qu'ils ont déjà un autre projet. Oui, réaliser un film.
Il y a possibilité de faire des films vraiment historiques. La masse de la documentation est impressionnante. Et c'est ainsi que nous avons pensé, Madame Wormser et moi, à ce que pourrait être un film réalisé sur le système concentrationnaire.
Est-ce que vous avez fait des projets pour ce film ?
Nous sommes en train de les faire, mais le projet essentiel, c'est de servir le but que nous poursuivons, c'est-à-dire que ce film ne renferme que uniquement des documents purement historiques et absolument confirmés par toute l'expérience que nous avons pu avoir du sujet. Nous voulons toutefois que ce soit véridique et historique, c'est la première condition que nous y mettons.
Jusqu'ici, à l'exception du film Les camps de la mort, montage d'archives des actualités cinématographiques, il n'existe en France aucun documentaire sur la déportation et la machine d'extermination nazie. Or, pour Henri Michel, le choix du cinéma s'impose de lui-même, oui, comme un support évident. Selon l'historien, il constitue le vecteur le plus approprié pour raconter cet événement aux jeunes générations. À la fin du mois de février 1955, la société de production Argos se lance dans l'aventure. L'accord entre les deux historiens et le producteur Anatole Doman est scellé autour d'une double exigence. Le documentaire qui sera produit devra être aussi impartial que précis sur le plan historique et il devra en outre obtenir l'unanimité des associations et personnalités concernées par l'événement. Pour réaliser ce court-métrage d'une trentaine de minutes, Anatole Doman sollicite la cinéaste Nicole Vedres, mais celle-ci refuse, prétextant l'insuffisance de moyens mis à sa disposition. Le producteur se tourne alors vers un jeune réalisateur de 33 ans dont l'œuvre apparaît déjà comme l'une des plus innovantes de l'école française du documentaire, un certain Alain René. En 1955, il fait déjà figure de réalisateur engagé. Avec ses documentaires Van Gogh, Guernica ou encore Les statues meurent aussi, il a acquis une notoriété. Son talent derrière la caméra n'est plus à prouver, mais revers de la médaille ou preuve d'excellence, le travail du jeune cinéaste se heurte souvent à la censure. Bien des années plus tard, Alain René racontera son premier contact avec le producteur au micro de France Culture.
J'ai reçu un soir un coup de téléphone du producteur Anatole Dauman, qui me demandait de faire un film sur les camps de concentration. Et bien entendu, j'ai refusé parce que je trouvais qu'il fallait que ce soit fait par quelqu'un qui avait vécu la déportation. Et on en est resté là, je pense, pendant une bonne quinzaine de jours, quoi. Et j'ai été voir l'écrivain Jean Cayrol. Je lui ai parlé de ce problème et je lui ai dit, si vous acceptiez, vous qui avez connu la déportation, si vous acceptiez d'écrire le commentaire, peut-être que je pourrais repenser au problème.
Cayrol, l'ancien déporté de Mauthausen, accepte. Alain René, lui, tient son engagement et signe dans la foulée son contrat avec Argos. D'emblée, le jeune réalisateur fait part de ses ambitions artistiques et esthétiques. Il refuse de faire un film encyclopédique sur la déportation, un film qui soit le promoteur d'histoires individuelles, non. René entend faire de ce documentaire un récit qui plonge chaque spectateur, ancien déporté ou non, à l'intérieur de la machine concentrationnaire. Autre point sur lequel le réalisateur se montre intransigeant, la bande-son. René exige qu'on crée une mélodie inédite qui accompagne les plans de la caméra, qui soutienne la narration et qui rythme chacune des séquences. Mais ce n'est pas tout.
On a été voir les restes d'un camp dans l'est de la France.
Ostrutov, je crois.
Voilà, Ostrutov. Et c'est là où j'ai décidé, on était au haut d'une espèce de petite colline qui dominait le camp et... Je me souviens très bien que me suis approché d'Anatole Dauman et je lui ai dit, j'ai une idée là qui va vous paraître folle et qui a des conséquences financières importantes pour vous, c'est que je veux le faire à la fois en couleur et en noir et blanc. Il m'a dit oui, en effet, parce qu'il faudra tirer tout le film sur pellicule couleur, ça change... beaucoup le budget, mais écoutez, on va étudier ça. Enfin, il n'a pas refusé.
Et bien sûr, le devis initial du film explose. Il atteint les 18 millions de francs. C'est trois fois plus que ce que le producteur Anatole Dauman a pu réunir. Un vrai parcours du combattant d'ailleurs, car il a fallu faire le siège des uns et des autres pour obtenir des subventions publiques et démarcher aussi les associations d'anciens déportés. Fort heureusement pour le producteur, une société de production de Varsovie accepte de cofinancer le documentaire et de prendre en charge tous les frais relatifs au tournage en Pologne. Car c'est important de tourner en Pologne, à l'intérieur même de la carcasse de rouille et de béton en ruine des anciens camps de la mort. Ça aussi, c'est une exigence de René et des historiens Michel et Wormser. Tout au long de la phase de recherche documentaire, conduite en parallèle de l'écriture du scénario, Alain René travaille en étroite collaboration avec ses deux conseillers historiques. Et c'est à partir de la documentation iconographique réunie par Henri Michel et Olga Wormser pour leur expo de la rue d'Ulm que le cinéaste va puiser les grandes lignes de sa narration. Il sera ensuite au Centre de documentation juive de Paris. Et là, il met la main sur une série de clichés représentant la persécution des Juifs de France et il tombe sur une photo qui prouve la collaboration de l'État français avec l'Allemagne nazie. Sur le cliché, ce cliché-là, on voit sur un chemin de ronde un gendarme qui observe un camp de transit où sont parqués les déportés avant leur départ pour l'Allemagne. Parce qu'il voit, il sait. Et qui ne dit rien, consent. Cette photo, qui sera par la suite appelée le gendarme de Putivier, sera incluse dans le montage final. Autre étape essentielle, la recherche d'images. Afin de réunir suffisamment de matière, le cinéaste s'enferme pendant des heures et visionne les bulletins des actualités cinématographiques sur la libération des camps. Des séquences évidemment horribles qui vont créer chez lui un traumatisme.
Pendant toute la préparation, en somme, pendant ce qu'on pourrait appeler l'écriture du film, enfin celle qui était faite à Paris, j'avais des cauchemars toutes les nuits et je me réveillais en criant. Bon, c'était... Et à partir du moment où on a été sur les lieux même, où on a tourné, les cauchemars ont complètement disparu. Vous faites de ça ce que vous voulez, mais...
Le projet de documentaire d'Henri Michel et Olga Wormser, produit par Argos et réalisé par Alain René, bénéficie du soutien du ministère de l'Éducation et du ministère des Anciens Combattants, et surtout, il se place sous l'égide du comité d'histoire pour la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, le service cinématographique de l'armée française refuse à René l'utilisation de la quasi-totalité de ses archives filmées, et même comportement en Grande-Bretagne. Contraint et donc forcé d'aller chercher des images ailleurs, le réalisateur se rend à l'Institut néerlandais de documentation de guerre. Et c'est à Amsterdam qu'il va réussir à visionner les plans tournés par les Britanniques lors de la libération du camp de Bergen-Belsen, plans qui constitueront l'essentiel de la dernière partie du film. Paradoxe de ce voyage en Hollande, c'est également là que l'équipe découvre les images de ce qui deviendra par la suite l'une des séquences les plus fortes du documentaire, celle de la fillette Westerbork, le drancy hollandais. Séquence où l'on voit un flanc de wagon prêt à partir pour les camps de l'Est, portant l'inscription « Verun sieben personen », 74 personnes. Puis, en gros plan, entre la jointure des portes, le visage d'une enfant coiffée d'un foulard, fixant la caméra, inquiète. Autre étape décisive pour la collecte des archives, la Pologne. Rendez-vous est pris à l'Institut historique juif. Sur place, René, Michel et Wormser découvrent la photo de l'enfant du ghetto qui sera reprise elle aussi dans le film et sur laquelle on voit un jeune garçon marcher, les bras levés en l'air, tenu en joue par les soldats allemands. Puis au studio des films documentaires de Varsovie, l'équipe fait une autre découverte, saisissante. Le film de la visite d'Heinrich Himmler, chef de la SS à Auschwitz. Un document inestimable sur le plan historique, car c'est à partir de cette visite de juillet 42 qu'allait être mise en place la sélection des déportés à l'arrivée des convois. Les uns vers les chambres à gaz, les autres réduits en esclavage dans les camps de travail. Au cours de l'été 55, dans la correspondance entre le producteur Anatole Daumont et les historiens Henri Michel et Holger Wormser, apparaît à plusieurs reprises le titre provisoire du projet « Résistance et déportation ». Simple et descriptif, il répond à l'enjeu même du documentaire, lier l'histoire de la lutte clandestine à celle des camps de concentration. Mais au cours d'une réunion de travail, ce titre est abandonné. Au profit d'un autre, elle aura plus mystérieuse pour le spectateur. Nuit et brouillard, en allemand « Nacht und Nebel », en référence à un décret nazi, comme l'explique l'historienne Sylvie Lindenberg.
La procédure « Nacht und Nebel » fut instaurée par le régime nazi en décembre 1941. Elle prévoit que les résistants, arrêtés dans leur pays d'origine, soient emmenés en Allemagne, où nul n'aura alors plus connaissance de leur sort. L'objectif est ainsi de les faire disparaître, sans laisser de traces, dans la nuit, et le brouillard.
Début septembre 1955, la phase de recherche documentaire terminée et l'écriture des scénarios bien avancée, Alain René et l'équipe du film se préparent à partir pour la Pologne. Une étape décisive, on l'a dit, mais qu'appréhende le réalisateur? Comment en effet marcher sur les traces des bourreaux et filmer l'intérieur des camps sans manquer de respect à toutes les victimes?
Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Il s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leur chien policier. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100.
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Le 22 septembre 1955, Alain René, Henri Michel et Olga Wormser arrivent à Varsovie. Sur le chemin vers Auschwitz, le réalisateur relit la dernière version du scénario qu'il a lui-même corrigé. Celui-ci reprend 6 chapitres de l'ouvrage d'Olga Wormser, Tragédie de la déportation. La narration, elle, doit suivre le chemin de croix des déportés, de leur internement jusqu'à leur mort, en passant par l'épreuve des convois, leur arrivée dans les camps et leur vie quotidienne dans la société concentrationnaire. L'objectif est d'expliquer clairement aux spectateurs comment le système concentrationnaire découle automatiquement du fascisme, mais aussi, sur la base des derniers travaux de recherche d'Olga Wormser, d'affirmer qu'en plus d'être un système répressif, le système concentrationnaire nazi a basculé en une industrie de la guerre et enfin en une industrie de la mort. Des notions que nous maîtrisons aujourd'hui, que nous comprenons, mais qu'il fallait bien expliquer à l'époque, au lendemain de la tragédie. Lors du premier repérage à Auschwitz, puis au camp voisin de Birkenau, René visite les blocs et prend conscience de l'incongruité d'un tournage cinéma sur les lieux d'un crime, un tel crime. Quand le cinéaste installe des rails pour ses travelling à proximité des rails existants, ceux sur lesquels roulaient les wagons des déportés, la narration par l'image insiste sur l'ombre spectrale qui plane sur Auschwitz. Et cette confrontation avec le réel est un choc. Le réalisateur comprend alors qu'il va devoir adapter son regard pour ne pas heurter le spectateur.
Je crois que c'est venu à partir du moment où j'ai appliqué ma tête à résoudre le problème, c'est-à-dire comment faire un film sur le sujet qu'on me demandait.
C'est ça.
Sans doute qu'à chaque fois, j'ai senti qu'on ne pouvait que suggérer, en effet, cette horreur, et que si on, chaque fois qu'on montrait quelque chose de complètement réel sur l'écran, eh bien l'horreur disparaissait. Donc il fallait mettre en branle l'imagination du spectateur par tous les procédés possibles.
C'est donc ici, à Auschwitz, que René tourne la séquence inaugurale du film Nuit et brouillard. Filmée en couleur, elle commence par un plan fixe sur un champ de plaine, traversé par un cheval au pas. Puis la caméra amorce un mouvement de travelling descendant qui dévoile les premiers stigmates du camp, les barbelés, les ruines de ciment, et qui plonge le spectateur à l'intérieur même de l'enceinte. René filme aussi dans le camp musée certains objets et surtout à l'intérieur de la chambre à gaz du camp de Majdanek, la fameuse séquence montrant le plafond en béton lacéré et strié et dont le commentaire précisera que ce sont les traces d'ongles des victimes de la chambre à gaz. On imagine, les conditions de tournage sont éprouvantes. Aux aléas d'une météo capricieuse s'ajoutent les retards consécutifs à l'installation du matériel. Les plans en intérieur sont tournés à Birkenau, camp attenant à Auschwitz et au camp musée d'Auschwitz 1. Mal à l'aise, l'équipe et son réalisateur enchaînent les enregistrements de manière presque mécanique, essayant de faire abstraction de leur environnement. Dans cet univers sordide, rempli de décombres et où flotte l'ombre de la mort, l'un des assistants opérateurs, Sacha Virny, dira plus tard: ça nous donnait l'impression de revivre ce que tous ces gens avaient vécu pendant la guerre. Oui, ça nous donnait l'impression que la guerre n'était pas finie. À la fin du mois d'octobre 1955, l'équipe du film rentre à Paris. Au 15 de la rue Poissy, Alain René entame donc le montage. Il se fait installer un petit lit de camp et vit en immersion avec ses images. L'horreur dont elle témoigne rend l'expérience difficile pour lui et pour toute l'équipe. Sa jeune assistante, Anne Sarraud par exemple, est prise d'une violente crise d'angoisse à la vue de certains plans. Malgré tout, des heures durant, et comme il le ferait pour d'autres images tournées pour un autre film, René place, cadre, chronomètre, chaque plan. Le montage cut de Nuit et brouillard est rythmé par le mouvement ample et large des séquences en couleur et le mouvement saccadé et haché des images d'archives, témoignages de la barbarie nazie. C'est sur cette matrice que l'écrivain Jean Cayrol doit écrire le commentaire. Ancien déporté, il est à son tour choqué lorsqu'il découvre les images. Et c'est un témoignage sans l'emploi du jeu, d'une sobriété dans le ton et dans les mots qui donne encore plus de force aux propos. C'est ce commentaire qui sera ensuite lu par le comédien Michel Bouquet.
Même un paysage tranquille, même une prairie avec des vols de corbeaux, des moissons et des feux d'herbe. Même une route où passent des voitures, des paysans, des couples, même un village pour vacances, avec une foire et un clocher, peuvent conduire tout simplement à un camp de concentration. Le Struthof, Oranienburg, Auschwitz, Neuengamme, Belsen, Ravensbrück, Dachau furent des noms comme les autres sur les cartes et les guides. Le sang a caillé, les bouches se sont tues, les blocs ne sont plus visités que par une caméra. Une drôle d'herbe a poussé et recouvert la terre usée par le piétinement des concentrationnaires. Le courant ne passe plus dans les fils électriques, plus aucun pas que le nôtre.
Le nom de Michel Bouquet n'apparaîtra nulle part au générique. D'un commun accord entre lui, René et les historiens, afin d'éviter que la présence d'un comédien au générique ne remette en question la vérité historique portée par le film. Résultat d'une année de recherche documentaire en Europe, d'une écriture sans cesse en mouvement, d'un tournage complexe, puis d'un montage dans des conditions éprouvantes, Nuit et brouillard, film de 32 minutes en couleur et en noir et blanc, soutenu par une musique tantôt inquiétante, tantôt rassurante, mélange d'images gorgées de tensions, d'émotions, 32 minutes qui plonge le spectateur dans un cheminement personnel pour comprendre les mécanismes de l'horreur et de la barbarie nazie et qui se termine par une séquence qui prend à témoin le même spectateur.
Au moment où je vous parle, l'eau froide des marais et des ruines remplit le creux des charniers. Une eau froide et opaque comme notre mauvaise mémoire. La guerre s'est assoupie. Un œil toujours ouvert. L'herbe fidèle est venue à nouveau sur les Appelplatz, autour des blocs. Un village abandonné, encore plein de menaces. Le crématoire est hors d'usage. Les ruses nazies sont démodées. 9 millions de morts hantent ce paysage. Qui de nous veille de cet étrange observatoire pour nous avertir de l'avenue des nouveaux bourreaux? Ont-ils vraiment un autre visage que le nôtre? Quelque part parmi nous, il reste des capots chanceux, des chefs récupérés, des dénonciateurs inconnus. Il y a tous ceux qui n'y croyaient pas, ou seulement de temps en temps. Il y a nous qui regardons sincèrement ces ruines, comme si le vieux monstre concentrationnaire était mort sous les décombres. Qui feignons de reprendre espoir devant cette image qui s'éloigne, comme si on guérissait de la peste concentrationnaire. Nous qui feignons de croire que tout cela est d'un seul temps et d'un seul pays, et qui ne pensons pas à regarder autour de nous, et qui n'entendons pas qu'on crie sans fin.
Le 30 décembre 1955, la commission de contrôle se réunit en séance plénière et examine le cas de Nuit et Brouillard. Afin de lui délivrer son visa d'exploitation en salle, la commission recommande l'interdiction du film aux mineurs en raison de la vérité criminelle et de certaines scènes de nudité. La société Ergo s'y attendait et ne bronche pas. Problème tout de même quand le représentant à la Défense nationale exige la suppression d'un des plans du film. Cette scène, c'est celle dite du gendarme de Petitvier. Vous savez, le gendarme qui voit tout. René, qui a déjà éprouvé les pratiques de la censure pour son précédent film Les statues meurent aussi, réagit avec ruse. Par l'intermédiaire d'Anton Doman, il réclame à la commission de contrôle une demande écrite et motivée pour justifier cette censure. En réaction, les membres de la commission menacent de demander plusieurs autres coupes dans le film si le réalisateur ne retire pas les 5 petites secondes où l'on voit le gendarme avec son képi, vous savez, vous connaissez l'histoire. Alors, censure, chantage, les deux. Toujours est-il qu'après des semaines de tractations sans issue, Alain René consent non pas à retirer la scène, mais à la maquiller. Au micro de France Culture, il s'en explique.
Moyennant la promesse qu'on ne toucherait pas à la fin du film, on a fait une transaction, c'est-à-dire que on a gouaché, on a ajouté une poutre à la gouache, d'une manière très maladroite d'ailleurs, sur le képi du gendarme et qu'on fait moins attention au fait, en effet, que c'est un képi de gendarme français. Du coup, le résultat était que toute la presse en a parlé, qu'on a reproduit la photo du gendarme avec et sans poutre, que les gens ont été beaucoup plus au courant qu'ils n'auraient été, évidemment, si la commission de contrôle n'avait pas accroché là-dessus en projection. Je suis sûr que ce ne serait pas si inaperçu.
Et il faudra attendre plus de 40 ans et la sortie en 1997 de la version intégrale du film sur cassette VHS pour que le gendarme de Petitvier soit de nouveau visible. Après la censure, Nuit et Brouillard va connaître une autre mésaventure. À Cannes, cette fois, lors des sélections. Retenu pour participer à la compétition officielle dans la catégorie documentaire, le film d'Alain René est brusquement retiré de la liste des films sélectionnés sur décision du secrétaire d'État à l'industrie et au commerce, un certain Maurice Lemoine. La vague de protestation est générale. Professionnels du cinéma d'un côté, associations du souvenir et d'anciens résistants de l'autre, tous montent au créneau et réclament des explications. En coulisses, la rumeur d'une intervention allemande se propage dans la presse. Mais lorsqu'Edmond Michelet, ancien déporté, figure de la résistance et sénateur, crie au scandale politico-diplomatique, le débat prend une tournure ouvertement politique. Dans les colonnes du journal Le Monde, le poète Jean Cayrol, auteur du commentaire du film, accuse, et c'est encore par la voix de Michel Bouquet que ce cri est diffusé à la radio.
Il n'était nullement besoin d'être grand clerc pour annoncer à l'avance que ce témoignage, unanimement accueilli par tous dans le silence et dans la réflexion, ne pouvait faire qu'une très courte apparition au cœur de notre monde bâillonné et aveuglé. Ainsi, officiellement, on porte un nouveau coup aux déportés. En douce. On les supprime. On les enferme de nouveau dans leurs souvenirs et dans leurs plaies. Et personne n'a plus le droit de s'approcher d'eux, d'écouter leurs avertissements solennels, de prendre en charge leur espérance. Les déportés sont devenus des gêneurs. Mes amis allemands, que pensez-vous de cet attentat contre notre amitié? Car c'est un attentat, n'est-ce pas?
Alain René répond : j'ignorais que le gouvernement nazi sera représenté au Festival de Cannes. La polémique s'enflamme et prend une dimension diplomatique quand les protestations des associations d'anciens déportés et de résistants remontent jusqu'au ministère des Affaires étrangères et à l'ambassade de la RFA à Paris, à tel point que le Quai d'Orsay doit démentir toute implication de Bonn dans cette affaire. On apprendra bien plus tard, pourtant, que les autorités d'Allemagne de l'Ouest ont bel et bien fait pression sur les membres du comité de sélection pour que le film ne soit pas retenu à Cannes. Pour tenter d'enrayer le vent du scandale, le ministre des Affaires étrangères, Christian Pinault, annonce qu'il se désolidarise de l'initiative du secrétaire d'État et qu'en soutien à Nuit et Brouillard, il ne se rendra pas au Festival de Cannes. Le 17 avril, un compromis est trouvé. Le film sera bien diffusé à Cannes, mais lors d'une soirée spéciale, hors compétition bien sûr. Et l'affaire en restera là. Mais elle aura consacré Nuit et Brouillard, non plus comme un documentaire sur la déportation et les camps nazis, mais comme LE film documentaire de la déportation. Avant même son exploitation en salle, le film est présenté au Musée de l'Homme à Paris au mois de janvier 1956, devant un public composé en majorité d'anciens déportés. Lors de la projection, une émotion immense s'empare de la salle. Plus tard, le journaliste écrivain, résistant et communiste Pierre Tex résumera le sentiment que partage alors un grand nombre d'anciens déportés. Quand je suis allé à Auschwitz en 1948, j'ai fui le guide, pourtant ancien déporté lui aussi, parce que j'avais besoin d'être seul. Ce n'est pas le souvenir des camps que j'ai vus, c'est le souvenir de la déportation, ce qui doit demeurer de nos morts et de nos blessures. Cela, je l'ai trouvé pourtant. Ce miracle, ce fut pour moi Nuit et Brouillard. Dans ses premières années d'exploitation, Nuit et Brouillard est surtout projeté à l'occasion de la Journée nationale de la déportation. Il obtient le prestigieux prix Jean Vigo. Les deux historiens, Olga Wormser et Henri Michel, entament un tour de France des lycées et des universités. Et progressivement, la diffusion de documentaires d'Alain René s'impose comme un outil pédagogique. Dans les décennies qui suivent, les changements de programme et l'apparition du support VHS permettent de diffuser encore plus largement Nuit et Brouillard. Illustration à l'école alsacienne, où 40 ans après la sortie du film, le professeur d'histoire Guy Varenne a fait du documentaire un objet central de son enseignement.
Je crois que ça fait à peu près 20 ans que chaque année, je le présente à des élèves de première ou de terminale, dans le cadre de l'étude du XXe siècle. Et puis comme c'est un problème tout de même extrêmement particulier, parce qu'il y a deux choses, il y a le fond, l'idéologie nazie, il y a ce qui s'est passé, c'est-à-dire la déportation, le camp, mais il y a une chose qui est pratiquement indicible, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur. Et par conséquent, je n'ai pas tellement l'habitude de préparer les élèves, si vous voulez, à ce qu'ils allaient voir. Et puis je les emmenais en salle, et c'était le silence pratiquement total. Par conséquent, je n'ai même pas osé les interroger. Eux-mêmes ne posaient pas tellement de questions. Ce qui m'avait toujours frappé, c'est ça. Hein, c'est le choc simplement émotionnel devant pratiquement ce qui était pour eux inimaginable.
À propos de Nuit et brouillard, et ce sera le mot de la fin, le réalisateur François Truffaut dira... Si ce film est un film, il est le film. Et les autres ne sont plus que de la pellicule à impressionner. Nuit et brouillard, le film le plus noble et le plus nécessaire jamais tourné, nous plonge dans une perplexité honteuse et provoque de nos idées, de nos sentiments, la déroute. Quelques herbes, quelques baraquements désaffectés, quelques barbelés enregistrés en couleur par Alain René et montrés aux coupables... constitue plutôt qu'un poème ou un réquisitoire, une bande sublime pour témoigner aux vivants, aux spectateurs, en un mot à nous-mêmes, notre honte et notre indignité.
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Nuit et brouillard, notre invitée Sylvie Lindeberg, il faut tout prononcer dans votre nom. Bonjour.
Bonjour.
Historienne, maître de conférence à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, membre de l'Institut universitaire de France. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages de référence sur le cinéma et le rôle de l'image sur la période de la Seconde Guerre mondiale, dont Nuit et brouillard, le film dans l'histoire, paru en 2007 aux éditions Odile Jacob. On est frappé quand on regarde ce documentaire de son aspect intemporel. Je veux dire intemporel dans le sens où, contrairement à d'autres films de cette époque, il a bien vieilli tant sur le plan cinématographique que sur le plan de la narration. En revanche, en ce qui concerne certaines scènes, je crois savoir qu'il est depuis plusieurs années l'objet d'un débat et de critiques. Dans le commentaire écrit par Jean Cayrol, il n'est fait aucune référence, par exemple, à la solution finale, ni au sort particulier des Juifs dans la déportation. Comment expliquer cette approche historique-là ?
Oui, Nuit et brouillard, vous l'avez rappelé, c'est d'abord une œuvre, et une œuvre qui a été portée par de très hautes ambitions artistiques, formelles, et à ce titre, le film... à résister à l'épreuve du temps. Mais dans le même temps, c'est un document historique daté sur l'histoire et la mémoire des camps nazis dans la France du milieu des années 50, à une époque où, je dirais, régnait sans grand partage la mémoire des déportés de la résistance. Et de ce fait, à partir des années 70 et plus encore 80, le film a été critiqué à la fois pour entretenir une certaine confusion entre les camps de concentration et les centres de mise à mort, avec pour support des images qui mêlaient un peu les deux événements, et puis, de fait, pour ne pas évoquer explicitement le génocide des Juifs. À une époque, alors il faut rappeler bien évidemment que la commande, et vous l'avez dit, la commande qui est passée à Alain René est la commande d'un film sur le système concentrationnaire qui est porté par le comité d'histoire mais aussi par le réseau des souvenirs qui est une association d'anciens déportés de la résistance qui est créée au milieu des années 50 pour entretenir cette mémoire-là.
Alors plus tard, et on ne peut pas ne pas en parler, il y a eu Shoah de Claude Lanzmann. Et en 2009, Claude Lanzmann s'est prononcé sur Nuit et brouillard. C'est intéressant d'entendre ce qu'il en a dit. Écoutons-le.
Le choc des images prime quand même, il me semble, en tout cas dans cette expérience que j'ai eue petite adolescente. Et vous vous dites que c'est un film idéaliste.
Pour plusieurs raisons, je trouve que le commentaire de Jean Cayrol qui est beau est quand même un commentaire un commentaire idéaliste. Je veux dire, le mot juif n'est pas prononcé une fois dans une énumération, mais vous savez, il y a beaucoup de gens supportent de voir
nuit et brouillard dans lequel on voit des monceaux de cadavres qui sont poussés dans des fosses avec des bulldozers, enfin, etc. Dans Shoah, il n'y a pas un seul cadavre. Ça n'existe pas.
Deux façons d'aborder cette histoire-là. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ces films ont été réalisés à 30 ans de distance.
Déjà, bien sûr, j'ai dit après,
voilà,
il y a eu Shoah.
Ils ne portent pas sur le même sujet. Hein, le film de Claude Lanzmann est un film entièrement centré sur l'extermination des Juifs dans les centres de mise à mort. Et de ce fait, le film ne s'appuie pas sur ces images d'archives qui sont une seule composante dans le film de Nuit et Brouillard, il y en a d'autres. Et c'est en tout cas le mérite de Claude Lanzmann de nous avoir bien fait comprendre ce contraste considérable entre d'une part un corpus d'images très important sur le système concentrationnaire et de l'autre la quasi-absence d'images de l'extermination des Juifs dans les centres de mise à mort. Hein. Donc ça, ce sont les différences majeures. Mais il y a, contrairement à ce que semble vouloir nous le faire croire Claude Lanzmann, des points communs. Tout à l'heure, vous avez cité ce très beau passage où Alain Resnais évoque la question de l'imagination. Ouais. Et il est tout à fait convaincu, comme l'est Jean Cayrol, que les images tuent l'imagination et que tout son travail d'artiste va être précisément d'engrainer l'imagination du spectateur. Et là, je vois pas tellement la différence qu'il pourrait y avoir de ce point de vue-là avec Shoah. On pourrait aussi marquer que chaque réalisateur est tributaire de toute une histoire du cinéma et le geste extrêmement fort qu'a été celui d'Alain Resnais de tracer ses travelling en couleur dans l'enceinte des camps, c'est bien évidemment quelque chose qui était matriciel, y compris pour Shoah, y compris pour Claude Lanzmann.
Alors, puisqu'on a écouté Claude Lanzmann, on va écouter Alain Resnais rapidement, qui témoigne au micro de France Culture, toujours, hein, du regard qu'il porte sur son film des années après.
J'ai l'impression que c'est un film, en effet, qui me dépasse de beaucoup, qui m'est comme étranger. Enfin, je veux dire que je ne peux pas plus renier que revendiquer, parce que je trouve que à ce moment-là, je mettrais beaucoup de prétention. Bon. Je crois l'avoir fait avec tous les élans que je pouvais avoir, bon, mais qu'est-ce que j'en retire? Eh bien, c'est une question que je me pose toujours, oui, et que je me poserai sans doute toujours.
Ouais, on imagine. On va s'arrêter un instant, parce qu'il n'a pas travaillé seul, René, on l'a dit, hein, sur l'un des personnages de l'ombre, et dont le rôle est pourtant central, de bout en bout dans ce documentaire, il s'agit d'Olga Wormser. C'est une pionnière dans la recherche pour la compréhension de la déportation des camps nazis. Qu'a-t-elle découvert?
Oui, c'est une pionnière parce qu'il faut rappeler qu'au milieu des années 50, cette histoire, l'histoire du système concentrationnaire n'est pas encore écrite, ou du moins elle en est vraiment à ses balbutiements. Pour le comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, il s'agit d'abord de réunir les documents, de collecter des témoignages, et l'histoire doit se faire après, à froid, avec le recul du temps. Et c'est là la force d'Olga Wormser, d'oser en quelque sorte commencer à écrire cette histoire, hein, dans une période où finalement elle est une des premières à le faire. Et l'un de ses apports fondamentaux, ça va être de travailler à cette période-là qui coïncide avec la réalisation du film sur le rôle de la main-d'œuvre concentrationnaire mise au service de l'économie de guerre du Reich. Et ce point est très important parce que c'est à partir de ce moment-là que les déportés donc vont travailler dans les camps, que cette main-d'œuvre esclave va travailler pour le Reich, y compris les déportés juifs. Et ce point est fondamental parce que c'est à partir de 42, à partir de ce moment-là, que les déportés juifs qui vont arriver dans les camps ne vont pas être tous immédiatement envoyés vers les chambres à gaz, mais passer par ce processus que les Allemands appellent la sélection, je mets évidemment les guillemets, au terme duquel les déportés déclarés inaptes vont partir directement vers les chambres à gaz et ceux déclarés là encore guillemets, aptes au travail, vont rejoindre le camp et les camps de travail hein, à Auschwitz, donc du côté de Monowitz.
Et ce qui, pour beaucoup d'entre eux, n'est hélas qu'une étape vers
absolument.
La mort.
Absolument.
Ils ne sont pas sauvés. Hein,
absolument pas. C'est un sursis. Et par ailleurs, c'est ça qui est fondamental, c'est que ces événements qui étaient distincts par leur chronologie et par leur espace vont tout d'un coup se rencontrer dans ce camp mixte d'Auschwitz-Birkenau, qui est à la fois camp de concentration et centre de mise à mort. Mmh. Et c'est ceci que perçoit, je dirais imperceptiblement, Olga Wormser et qu'elle va essayer de faire passer dans son scénario.
Alors, on a parlé de la censure, et la plus choquante qui soit, en tout cas aujourd'hui, et après le discours de Jacques Chirac au Valdive, c'est celle du policier de Vichy. Un policier français qui voit, donc qui sait, qui ne dit rien, parce que c'est son métier de rien dire, et puis il est embarqué dans cette histoire tragique, enfin il dit rien, c'est un vrai symbole de la collaboration du régime de Vichy avec le Reich. Et ça a été coupé. Alors quel regard on peut poser sur... Bon, c'est une époque, évidemment, on est au lendemain de la guerre, on comprend la dimension politique de tout cela, mais enfin ça c'est un événement important quand même. Au bout du compte, on la remet cette image, qu'est-ce que ça nous dit?
Alors, je crois que René en parle très bien. Il dit, au fond, au milieu des années 50, c'était pas un sujet qui agitait la société française, celle de la collaboration d'État. Mmh. Et il dit assez ironiquement, mais il a tout à fait raison, que c'est finalement la censure d'État qui va mettre l'accent sur cette photographie, dont on peut d'ailleurs préciser que René disait souvent la photo dite de Pithiviers, parce qu'à l'époque, on savait pas exactement, on n'était pas certain qu'elle ait été prise à Pithiviers, c'est ce qui était reporté au verso de la photographie. Et les travaux du CERCIL d'Orléans ont montré que cette photo avait en fait été prise à Beaune-la-Rolande, mais qui est un camp d'internement du Loiret, qui est équivalent.
Ça change pas grand-chose sur
ça
le fond.
Ça change pas le fond.
Si je peux me permettre.
Et cette photographie, d'une certaine manière, elle est en effet le symbole de la collaboration d'État. Sauf que René y voit autre chose. Il y voit les camps d'internement construits sur le sol de France qui font écho à la situation présente. Et pour lui, la situation présente, c'est la guerre d'Algérie qui vient de commencer depuis un an et ces camps d'internement qui sont créés suite à la loi d'exception de 1955, de nouveau sur le territoire. Je vous rappelle que le Veldiv, dont vous parliez tout à l'heure, a été utilisée pour la grande rafle de juillet 1942, elle est de nouveau réutilisée pour regrouper les Algériens arrêtés sur le territoire français.
Je faisais, nous sommes bien compris, référence au discours de Jacques Chirac.
Du Veldiv,
bien sûr.
Bien sûr.
95.
Oui,
il dit aussi, la France était responsable, bien sûr que
absolument.
Si. C'était une rupture importante.
Oui, mais tout à l'heure, vous parliez de Cannes, et c'est très important.
Canon.
C'est une polémique considérable.
Ouais.
Et dans le même temps, on demande à l'Allemagne des comptes parce que elle ne fait pas son examen de conscience en quelque sorte l'Allemagne de l'Ouest en faisant pression pour que le film soit retiré. Mais de l'autre côté, la France qui a eu vent de cette histoire de la censure d'État puisque c'est passé dans la presse, il y a un article de Daniel Valcroze dans le France Observateur qui évoque cette censure du gendarme, eh bien ça n'engendre pas une polémique du même ordre. D'une certaine manière, la France n'est pas prête à cet examen de conscience, à évoquer de front la collaboration d'État. Elle le fera beaucoup plus tard, dans les années 70, avec un autre film emblématique, qui est Le Chagrin et la Pitié.
Le Chagrin et la Pitié, bien sûr. Dernière dimension, elle est importante, la dimension pédagogique, le film comme outil pédagogique. On va écouter ce qu'en pense un jeune lycéen, parmi d'autres. Il témoigne en 1994, il a vu le film, qu'en pense-t-il? Qu'est-ce que ça lui apporte?
C'était une révélation pour moi. J'avais jamais réellement vu d'image, enfin de film relativement long et construit sur ce chapitre de l'histoire. Et disons que ça a été assez fort à ce moment-là.
Traumatisant ou...
Traumatisant, pas réellement, parce que... On savait quand même tout ce qui s'était passé, on était conscient qu'il y avait eu des horreurs. Mais le fait qu'elle soit concrétisée par ce film, ça nous a directement impliqués dans ce qui s'était passé. On s'est sentis très concernés.
Donc une phrase.
Oui, voilà, c'était le mot de la fin. C'est une phrase.
Bon, le film Nuit et brouillard n'a rien perdu de sa puissance d'évocation. Mmh. Et d'une certaine manière, on lui demande souvent trop et trop peu.
Bien, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment. Merci, au revoir.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Nuit et Brouillard, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur France Inter, franceinter.fr, bien sûr, à la technique aujourd'hui. Et on le remercie, il y avait Arnaud Caillet.